Vous écoutez, on lit pour vous.
La technologie au service de la résilience. Un texte d'Alexis Ouellette-Lapointe, journaliste indépendant. Si Montserrat Montero compte à son actif de nombreux succès, l'entrepreneur tient à mettre ses initiatives au service de la communauté des personnes qui vivent avec un handicap à Oaxaca. Selon la commerçante qui vit avec une déficience visuelle, les nouvelles technologies peuvent constituer un levier de choix pour le développement professionnel. On l'ignore parfois, mais un handicap réserve aussi des opportunités. Montserrat Montero est une femme d'initiative. À l'origine de plusieurs entreprises, elle se distingue par son leadership. Elle fait notamment partie du collectif Creando Juntos, qui a mis en place le marché Manos Mágicas à Oaxaca de Juárez. Au marché et en ligne, elle vend une vaste gamme d'œuvres textiles, de vêtements faits à la main et des bijoux. Autant de produits artisanaux emblématiques de sa région d'origine, San Pedro Amuzgos. Comme son travail implique une collaboration avec des artistes locaux, elle s'affirme une ambassadrice de la culture de sa région dans la capitale de l'État de Oaxaca. Il existe des politiques publiques pour que les entreprises embauchent des personnes en situation de handicap, mais il y a encore beaucoup d'obstacles et c'est grâce à l'entrepreneuriat que j'ai pu tracer mon chemin. Un chemin auquel elle veille à inviter aussi bien que possible ses collègues. Une technologie inclusive. Afin de faire fructifier sa boutique virtuelle, Montserrat utilise les réseaux sociaux et différentes plateformes de vente en ligne. Je me sens à l'aise avec la technologie et le fait d'avoir acquis une connaissance en profondeur de plusieurs applications existantes pour les personnes malvoyantes me donne un avantage en termes commerciaux. Elle soulève qu'en tant que personne malvoyante, l'usage du téléphone implique de nombreux défis. Les paramètres de chaque téléphone comportent maintenant une section d'accessibilité. Pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel, cela se traduit par l'utilisation de lecteurs d'écran. Il s'agit de TalkBack dans le cas Android et de VoiceOver pour celui du iPhone. Nous devons apprendre les gestes nécessaires pour nous déplacer sur l'écran, réaliser les raccourcis et les commandes. L'apprentissage a quelque chose de complexe, mais on peut, en y mettant des efforts, développer la même intuitivité que les personnes qui vivent sans handicap. Grâce à un processus de formation permanente, Montserrat continue de développer ses compétences technologiques. Je viens de terminer un cours pour femmes d'affaires en situation de handicap et nous avons vu plusieurs notions de vente, de comptabilité, de marketing digital et d'intelligence artificielle. Un travail qu'elle partage avec ses collègues à Oaxaca. La technologie constitue un sujet important pour les personnes en situation de handicap et nous en parlons beaucoup. J'invite mes collègues aux formations et cela me motive de les voir en tirer profit, puisque le développement professionnel va de pair avec l'émancipation personnelle et sociale.
L'agriculture de régénération sous la loupe de scientifiques québécoises. Un texte d'Alex Riopel paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir. Je vois beaucoup de changements et puis ça fait du bien. L'agriculture de régénération, c'est un baume sur notre cœur, disait récemment au Devoir Atina Kambouri, une chercheuse d'Agriculture et Agroalimentaire Canada interrogée dans le cadre d'un dossier sur l'agriculture et le climat. L'agriculture de régénération, un ensemble de techniques visant à améliorer la santé des sols malmenés par l'utilisation de machines lourdes, d'engrais synthétiques et de pesticides, gagne effectivement en popularité au Québec, et pas seulement chez les petits producteurs bio. En effet, les producteurs de grandes cultures, maïs et soya, sont de plus en plus nombreux à éviter de laisser leur sol à nu en hiver, ce qui prévient l'érosion à combiner des cultures associées sur une même parcelle ce qui favorise l'absorption des nutriments, ou à planter des engrais verts, comme des légumineuses, pour enrichir leur sol en azote. Selon une enquête de Statistique Canada, 49% des fermes de grande culture du Québec ont eu recours en 2021 à l'une des techniques de gestion de terre mentionnées plus haut. En 2017, la proportion était de 38%. En ce moment, on voit un grand engouement pour les cultures de couverture et les engrais verts, indique Marie-Élise Sanson, professeure en sciences des sols à l'Université Laval et spécialiste de la séquestration carbone dans les terres agricoles. Les agriculteurs qui mettent en œuvre ces pratiques espèrent en tirer des avantages concrets, rendre leur sol plus productif, séquestrer du carbone, utiliser moins d'engrais de synthèse, réduire leurs émissions de N2O, un gaz à effet de serre, etc. Pour vérifier si ces ambitions se concrétisent sur le terrain, des scientifiques sont à l'œuvre. Atina Kambouri et Marie-Élise Sanson en font partie. Elles participent au laboratoire Vivant Racines d'Avenir, un projet coordonné par l'Union des producteurs agricoles et financé par Agriculture et Agroalimentaire du Canada. Quantifier la séquestration de carbone. Madame Sanson veut mesurer le potentiel d'augmentation de matière organique et donc de carbone dans les sols agricoles du Québec. Le quart des superficies agricoles du Québec sont sous le seuil des 4 % de matière organique, seuil en deçà duquel on voit un impact significatif sur la productivité, explique-t-elle en guise de contexte. L'été dernier, son équipe a prélevé plus de 2000 échantillons de sol chez des agriculteurs des quatre coins du Québec, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ces spécimens, encore au laboratoire, permettront de déterminer le stock actuel de carbone et le potentiel de séquestration. En été 2025, Mme Sanson et ses collègues retournent sur le terrain, mais cette fois pour échantillonner des zones arbustives, riveraines ou herbacées en bordure des champs. Ça nous permettra de comparer un sol cultivé à son potentiel naturel, explique-t-elle. Dans 5 ans, ils iront recreuser au même endroit pour observer l'évolution de la situation. Si l'agriculture de régénération rehausse les stocks de carbone dans le sol, le réchauffement du climat, lui, les réduit. La chaleur accélère l'action des microbes qui digèrent plus de matière organique. C'est une tendance qui risque de s'alourdir, avertit Mme Sanson, qui espère mesurer ce phénomène dans son étude. Épandre moins d'engrais de synthèse. Quant à Atina Kambouris, elle évalue la valeur fertilisante des cultures de couverture. Une dizaine de producteurs, dont Renaud Péloquin, à qui le Devoir consacrait un papier à la mi-avril, participent à son projet. Il utilise des cultures de couverture intercalaires, entre les rangs de maïs depuis 1 an, 5 ans ou 10 ans. L'hypothèse, cette pratique aide à fertiliser leurs champs en azote. En effet, certaines cultures de couverture, comme le trèfle, fixent l'azote contenu dans l'air. Elles redonnent cet azote à la terre, ce qui, en principe, réduit les besoins en engrais de synthèse. Pour le confirmer, Mme Kambouris mesure la concentration d'azote dans le sol de ses participants à quelques occasions durant la saison. Elle évalue aussi l'absorption de cet élément nutritif par les plants de maïs. Elle compare enfin ses résultats à des parcelles témoins, aussi cultivées en maïs, équivalentes sur les plans pédologiques et climatiques. Son équipe se rendra cet été dans 5 champs répartis dans 3 régions, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie et la Montérégie. L'ampleur de son projet, avec 1300 échantillons de sol prélevés en 2 ans, devrait donner une bonne force statistique à ses conclusions, qui émergeront dans quelques années. Déjà, elle voit les cultures de couverture gagner en popularité et se diversifier. Chez certains producteurs, c'est comme si on avait une salade dans l'entre-rang, s'exclame la chercheuse qui s'attend à observer des gains de productivité et des effets bénéfiques sur l'environnement. Gageons que les résultats de Mesdames Sanson et Cambouri aideront les producteurs de l'avenir à affiner leurs pratiques en vue d'atteindre une agriculture encore plus régénératrice. C'était l'agriculture de régénération sous la loupe de scientifiques québécoises, un texte d'Alex Riopil paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir.
Un masque pour approcher les animaux. Un texte de Richard Dufour, paru le 11 août 2025 dans La Presse. C'est après une partie de chasse à l'ours, interrompue par un orage l'an passé, que Nicolas Monette a voulu résoudre ce qu'il qualifie du plus grand problème non résolu de la chasse, les odeurs respiratoires. Avec un partenaire, l'entrepreneur de Rosemère a mis au point un masque ajustable. Il s'agit, selon lui, du tout premier dispositif haut de gamme qui ne filtre pas l'air entrant, mais uniquement l'air expiré. Des millions de chasseurs et d'observateurs de la faune mangent littéralement des branches de sapin et des pastilles à la menthe simplement pour éviter que les animaux ne détectent leur respiration à des kilomètres. Et ça n'a plus aucun sens, dit Nicolas Monette. La gestion des odeurs est le plus grand défi pour parvenir à se rapprocher de la faune, souligne Nicolas Monette. Les orignaux sont presque aveugles. L'odorat est leur plus gros mécanisme de défense. Ils doivent te sentir avant même de te voir ou de t'entendre, parce qu'autrement, ils se trouvent à distance de vulnérabilité. Et il est trop tard, dit l'entrepreneur de 36 ans. L'humain a 5 millions de récepteurs olfactifs. Les orignaux en ont 300 millions. Et les ours en ont 1 milliard. Les chasseurs et les observateurs de la faune l'ont compris, dit-il. C'est la raison pour laquelle on retrouve plusieurs rangées de produits, désodorisants, shampoings, etc., pour gérer les odeurs sur les tablettes de grands magasins spécialisés. Il dit cependant avoir réalisé en chassant que tous ces produits ne gèrent seulement que 20% du problème. La respiration représente 80% du problème. Et c'est ce qu'on vient gérer, dit Nicolas Monette. Chasse à l'ours. Il explique en avoir été convaincu, en juin 2024, pendant une chasse à l'ours à Tremblant, alors qu'une tempête se dessinait. L'ours se présente, je tire. Puis l'ours part et je dois attendre 30 minutes à l'abri parce que des éclairs tombent près de moi. Je reviens le lendemain. On cherche partout. Il n'y a pas de traces de sang car il a plu. On trouve cependant des fragments d'os au sol, raconte-t-il. Au niveau éthique, c'est très important pour moi de tout faire pour retrouver l'animal. Le pourvoyeur suggère qu'on fasse appel à des chiens de sang capables de traquer le gibier tiré afin de ne pas perdre la viande et de ne pas avoir abattu l'animal pour rien. Il poursuit en disant qu'une dame se présente finalement avec son chien pisteur presque 24 heures après le tir, ayant atteint l'ours. Je doutais qu'on puisse retrouver l'ours puisque la pluie avait probablement fait disparaître toutes les traces de sang. La dame me dit cependant que son chien ne détecte pas le sang, mais l'adrénaline dans la respiration de l'ours. Je suis sceptique. Mais on se lance néanmoins dans la forêt dense, précise Nicolas Monette. On traverse une rivière et 2,2 kilomètres plus loin, on tombe directement sur l'ours. J'étais stupéfait, dit-il. Je me dis alors qu'il fallait absolument que je m'achète un masque de chasse. Mais ça n'existait pas. J'ai effectué des recherches sur l'impact de la respiration sur les composés organiques volatiles et c'est là que je me suis rendu compte que c'était 80 % du problème. Occasion d'affaires. Nicolas Monette a flairé l'occasion d'affaires et a lancé l'entreprise Roosevelt. Un clin d'œil à l'ex-président américain Theodore Roosevelt. C'était non seulement un grand chasseur, dit-il, mais c'est aussi lui qui a mis en place les parcs de conservation de la faune aux États-Unis, ce qui est à la source même de notre ADN. Roosevelt compte aujourd'hui 7 employés à temps plein et accepte des précommandes ce mois-ci pour livraison avant la saison de chasse 2026. Le prix demandé pour un masque a été fixé à 599 $. C'est un produit haut de gamme qui vient répondre à un immense besoin dans une industrie où l'on vient régler le plus gros problème, dit Nicolas Monette. On a complété une ronde de financement d'1,5 million avec 13 anges investisseurs québécois. L'air, à l'expiration, passe à travers un filtre rechargeable fonctionnant au charbon activé. Nous sommes les seuls à avoir déposé une demande de brevet pour un masque filtrant uniquement à l'expiration. Le masque est dessiné, moulé, découpé et imprimé en 3D au Québec, précise-t-il. On pense être réellement perturbateur dans le domaine de la chasse et de l'observation de la faune, mais le masque peut aussi avoir des utilisations médicales où l'environnement n'est pas contaminé et où on ne veut pas le contaminer. Dans ce monde où la gestion de l'odeur est ce qui a le plus d'impact sur la récolte ou non d'un gibier, ce sera un vrai game changer pour le plein air, espère-t-il. Pourquoi Roosevelt? Parce que le masque Vectre, V-E-K-T-R, fabriqué par cette entreprise québécoise, a le potentiel pour marquer une nouvelle ère d'innovation en chasse et plein air en se positionnant comme un vecteur de changement dans la proximité avec la faune. C'était un masque pour approcher les animaux. Un texte de Richard Dufour paru le 11 août 2025 dans La Presse.
Croire pour voter, un texte de Martine Saint-Victor, paru le 29 août 2025 dans La Presse. Été 2025. Quel été! Entre le boulot, les déplacements à l'étranger et ceux dans ma ville, entre les cônes oranges, les détours insensés et les crèmes glacées chez Dairy Queen, j'ai perdu un cousin. Il avait 32 ans. Inutile de mentionner que son cancer fut foudroyant, ils le sont souvent. Son départ m'a rappelé l'unicité de ma famille. Seule une expression des plus québécoises peut décrire ce clan haïtien, tricoté serré, surtout dans les moments les plus indicibles. La mort est l'une de ces choses inévitables qui mettent notre foi à l'épreuve et notre croyance en examen. Plus jeune, je regardais le téléjournal avec Bernard de Rome à Radio-Canada, mon initiation au bulletin télévisé. À la CBC, dans le même rôle, il y avait Barbara Frum. Son fils David a un peu suivi ses traces, et aujourd'hui, après avoir passé des années à écrire des discours pour le président George W. Bush, c'est à la télévision américaine qu'on peut le voir. Il y livre des analyses politiques et, à une cadence plus régulière, on peut lire David Frum dans le magazine The Atlantic. Frum est incisif et sans pitié pour l'administration Trump. Il n'est guère plus tendre envers les démocrates qu'il trouve en carence de mordant. Mais à mes yeux, sa meilleure analyse est celle qu'il a écrite sur la mort. Celle de sa fille, Miranda, morte d'une tumeur au cerveau en février 2024. Elle avait 32 ans, comme mon cousin. J'ai relu cette chronique parue dans The Atlantic plusieurs fois, toujours avec le cœur dans la gorge. De Miranda, David Frum a écrit « Elle m'a donné de la joie, de la fierté et la sagesse que l'on ne peut acquérir qu'en aimant un autre être, plus qu'on s'aime soi-même. » Il y a un abandon dans cette phrase, comme il y en a un dans la foi. Quel été! Les nouvelles se sont succédées, souvent selon une certaine formule. Aujourd'hui, le président, inséré scandale. Aujourd'hui, avec le facteur humidex, il fera insérer la température. Un record. Aujourd'hui, insérer figure emblématique, n'est plus. Ozzy Osbourne et Connie Francis, David Gergen et Malcolm Jamal Warner, les grands Fiori et Foglia, et aussi Jimmy Swaggart. Pendant que le 1er juillet 2025, nous célébrions le Canada de l'autre côté de la frontière, on annonçait le décès de Swaggart à l'âge de 90 ans. Ce pasteur n'a pas inventé le métier de télévangéliste, mais il l'a perfectionné et surtout rentabilisé. Il diffusait ses messes à la télévision, d'abord aux États-Unis, puis partout dans le monde, et il utilisait la Bible comme un magicien utilise le combo chapeau-lapin. Cet abracadabra était la base de son empire qui, en 1987, enregistrait des revenus de 150 millions de dollars américains. La majeure partie de cet argent venait des téléspectateurs qui envoyaient à son entreprise chèques et espèces par la poste. Jimmy Swaggart faisait dans le charlatanisme et il vivait dans une opulence des plus somptueuses, soutenue par ses paroissiens. Il avait monétisé Dieu, le péché, le pardon et la foi. En revoyant certaines archives, j'ai remarqué la frappante ressemblance entre les messes de Swaggart et les rassemblements politiques. Les conventions démocrates et républicaines, celles d'il y a un an, par exemple, ressemblent à des communions. Les prédicateurs ne portent pas de soutane et ne sont pas des représentants divins autoproclamés, mais ils partagent ce qu'ils croient être une sorte d'évangile, la politique, cette religion. Mais pourquoi parler ainsi de foi, de croyance, parce qu'en politique, il me paraît de plus en plus difficile d'en avoir. Croire, c'est un peu rêver. Et la foi est de penser que ces rêves peuvent devenir réalité. Il nous faut croire en un projet collectif, le retour du Messie, de l'équilibre budgétaire ou de la Coupe Stanley à Montréal. Un des défis pour les candidats aux prochaines élections municipales dans quelques mois, et pour ceux qui le seront au scrutin provincial en 2026, sera de nous faire croire à plus grand et à mieux pour nos villes et pour notre province. De grandes idées fédératrices. Dans un sondage en septembre 2024, l'Institut Angus Reid révélait qu'un tiers des Canadiens se considèrent comme des orphelins politiques. Les chiffres seraient-ils bien différents au niveau municipal et provincial? En parlant de ce qui l'a aidé dans le deuil suivant la mort de sa fille Miranda, David Frum évoque l'importance de la communauté, de vraies connexions humaines. C'est peut-être ce qui manque dans notre collectivité et, par ricochet, en politique aujourd'hui. Ce qui pourrait expliquer la polarisation qui semble toujours s'accentuer. Ce sentiment d'abandon qu'éprouve le tiers des Canadiens s'explique peut-être par le fait qu'ils ne se sentent pas assez interpellés. Mais entre le sondage et les plus récentes élections fédérales au Canada, il y a eu des attaques inattendues. Nous nous sommes ralliés pour combattre une guerre commerciale et une menace d'annexion. Ça n'a pas fait rêver, mais c'était essentiel et à tout le moins rassembleur. Quelle sera la grande idée pour Montréal en novembre 2025? J'ai la foi qu'il y en aura une. Lors des élections municipales de 2021, le taux de participation n'a été que de 38% à Montréal. Pour améliorer ce pourcentage anémique lors du prochain vote, les candidats devront nous faire rêver. Ils devront nous faire croire. C'était « Croire pour voter », un texte de Martine Saint-Victor, paru le 29 août 2025 dans la presse.